Hey, moi, je m'en venais ce matin, j'étais dans ma voiture. Hein. Puis, j'ai vraiment eu du bon temps en fin de semaine. Moi, je vous encourage à vous acheter le CD là, de Luc Dumont, le plus loin. J'étais hier matin, écoute, il est 5h30 du matin. Puis, je me réveille, je dois donner un cours à Gatineau. Je dois me dépêche. Je suis dans la maison, là, puis je me dépêche, tout ça. Fait que j'embarque dans la voiture. Là, vous ne me direz pas, là, « Ah, oh, c'est parce que tu as vu un bon film, tu étais touché, tout ça. » Non, non, non. Je viens de me réveiller, il est 5h et quelques. J'ai, tu sais, comme, tu t'en vas dans la voiture comme ça, je m'en vais à Gatineau. Là, je commence à mettre le CD de Luc Dumont. Il est de bonne heure, là. D'accord? Là, j'ai fait quelque chose, ma femme n'aime pas ça. Hey, je ne sais même pas où je devrais en parler, ça, c'est terrible. Je conduisais. Alors, j'ai pris le papier qui avait les paroles du chant de Luc Dumont. Et je sais, je m'excuse, Seigneur, pardonne-moi, c'est pas correct. Mais en même temps, je jetais un coup d'œil. Alors, j'ai commencé à chanter avec Luc Dumont. Et là, j'étais là, puis je jetais un coup d'œil, puis je chantais. Là, il est 6h et quelques du matin. Là, je commençais à chanter, puis tout ça. Et je vous dis, après quelques minutes, Là, je commence à brailler, je commence à pleurer. Là. J'étais là, je chantais des louanges, tout ça. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Voyons, là, les chants passent. tu pleures, t'es touché. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Mais c'est quoi? C'est ça, c'est la présence de Dieu. Tu commences la journée en louant le Seigneur. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il va remplir ton cœur d'une joie. Là, tu vas faire face à ton patron dans une demi-heure ou une heure, là. Tu as ton cœur plein de joie. Il y a beau te chicaner, puis te pousser, puis tout ça, puis tu dis « Ah ouais, c'est bon, c'est correct. » Il n'y a rien qui peut te déranger, tu as le cœur plein de joie. C'est vrai? Ah, moi, j'aimerais vous recommander. Puis ce matin, justement, je m'emmenais ici. J'étais dans ma voiture, puis j'étais dans ma... Vraiment, là, puis là, puis je sais que je fais des signes quand je parle. Il y a des gens qui sont comme ça, hein, ça me donne des signes. Là, tu es dans ta voiture, des chars qui passent à 116. Là, c'est pas pire, on peut tricher, là, parce que les gens pensent que tu es en train de parler au cellulaire. Là. Fait que là, je suis en train de parler à Dieu. « Ah, Seigneur, fais quelque chose ce matin pendant le culte. Touche nos cœurs, etc. » Bien, Seigneur, je pense qu'il a déjà commencé à exaucer par vos témoignages, tout ça. Il a chambardé l'horaire, là, mais c'est pas grave. L'Esprit-Saint, il faut être sensible à ça. Quand l'Esprit-Saint fait des changements, il fait passer par des détours, il faut être sensible à ça. Amen. Ah, bon, Seigneur est tellement bon. Seigneur est vivant. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Ah oui, je pense qu'on peut certainement. Moi, je vous ai peut-être déjà raconté que mon père. Est-ce que vous savez mon père où est né, mon père? En Inde. Oui, mon père est né en Inde. Et puis, mon père est né en Inde, quoiqu'il a vécu une bonne portion de sa vie en Angleterre. Il est né en Inde, son père est né en Égypte, et le père avant ça est né en Russie. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça les Juifs de la diaspora. Hein? Fait que tu as Russie, l'Égypte, Inde et Montréal. Hein? Et c'est toute une histoire. Mon père était en Inde en même temps que Gandhi. Et puis Gandhi était très connu, vous savez, pour ceux qui le connaissent, moi vraiment, vous avez étudié l'histoire en Inde, vous savez que Gandhi était un personnage très, très connu, un homme politique et aussi très religieux. Il s'est vraiment donné à l'hindouisme. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Gandhi était reconnu pour le fait qu'il était pacifiste. Il a même été tué, assassiné par un extrémiste hindou, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec sa façon de procéder, puis son approche, son attitude. Il est perçu comme le père de la nation indienne. 15 ans avant sa mort, Gandhi a écrit ceci. « Je veux vous dire en toute humilité que l'hindouisme satisfait complètement tout mon être et je trouve un grand réconfort dans les écritures de l'hindouisme comme le Bhagavad et dans les textes sacrés de Upanishad que je ne retrouve pas dans le sermon sur la montagne. » 15 ans avant sa mort, Gandhi. Il y a des gens, on entend ça des gens des fois, les gens vont dire « Ah, c'est la parole de Dieu, là, c'est pas pour aujourd'hui » ou c'est « Moi, je trouve rien dans la Bible, etc. » Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui. Seulement les gens disent ça, hein? je ne trouvais rien dans la Bible, il me semble que j'ai d'autres choses dans ma vie plus intéressantes, puis qui est mieux, etc. 15 ans avant sa mort, Gandhi a dit ça. Mais avant sa mort, à peu près un an, quelques avant sa mort, voici ce qu'il écrit. Il dit, puis en passant, hein, il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup de religions dans le monde, alors une religion ou une autre, ça ne fait pas vraiment de différence. Écoutez bien celui-ci, Gandhi qui dit avant sa mort, il dit « Mes jours sont comptés, je ne m'attends pas à vivre longtemps, peut-être un an tout au plus. Pour la première fois en 50 ans, je me retrouve dans le marécage du désespoir et du découragement. » En passant, très intéressant, vers la fin de sa vie, quelque temps avant sa mort, les mots qu'il employait étaient les mêmes mots que l'on retrouve dans le livre du Voyage du pèlerin. Certains pensent qu'il aurait mis la main sur des livres chrétiens comme le Voyage du pèlerin. Il emploie des métaphores et des mots intéressants que l'on retrouve, des mêmes phrases pareilles, imagées, que le Voyage du pèlerin. Certains pensent justement qu'il se serait peut-être approché. Alors, on ne sait pas si c'est converti ou quoi, ça, on ne voit pas ça. Mais voici ce qu'il dit. Il continue en disant, « Tout autour de moi est ténèbres, et je prie désespérément pour trouver la lumière. » Même Gandhi, qui semblait être au contrôle de sa vie puis avoir la maîtrise sur sa vie, il a vu ses convictions s'écrouler et tomber dans le désespoir lorsqu'il a fait face à la réalité de la mort. Pas de réponse devant la mort. Comment t'expliques la mort? Il ne savait pas, ça l'a complètement assommé. La mort, c'est une réalité. Ça va arriver un jour, c'est l'aboutissement de chacune de nos vies. C'est une réalité, la mort. Hier, j'étais à Gatineau pour donner un cours, justement, de prédication. Et j'ai mis la main sur une lettre d'une missionnaire en Afrique, et voici ce qu'elle lit, ce qu'elle dit dans sa lettre. Elle donne des nouvelles sur son œuvre missionnaire qu'elle est en train d'accomplir en Afrique. Alors, regardez bien ce qu'elle dit. « Je crois que je suis dans un lieu très aride. Je ne dis pas cela seulement parce qu'il fait très chaud, 45 degrés Celsius à l'ombre. » Dernièrement, il est survenu plusieurs morts subites parmi les Konyagi. La mort n'est pas quelque chose que la plupart d'entre nous aiment considérer, mais les gens ici semblent continuellement être à un décès, à un enterrement, une messe ou un sacrifice pour les morts. Je suis horrifié de voir comment leur vie est axée sur la mort. Et moi, ma vie est axée sur la merveilleuse vie que Christ m'a donnée. Comme je suis béni, je voudrais tellement qu'ils puissent connaître cette même vie. À ses funérailles, je pleurais, sachant que ces gens passeront une éternité en enfer n'ayant pas Jésus-Christ. Et j'étais troublé par le fait qu'ils n'avaient pas eu l'occasion d'entendre, ne serait-ce qu'une seule fois, que Christ est mort afin de leur donner la vie. Je suis arrivé trop tard. En réalité, nous sommes tous trop tard pour atteindre ces personnes. Je me demande ce que nous, l'Église, attendons. Qu'est-ce qui peut être plus important que de partager la vérité avec quelqu'un qui ne l'a jamais entendue? J'aurais pu laisser la tristesse m'accabler, mais je connais mon Sauveur. Je sais qu'il est plein d'amour, qu'il a un plan merveilleux et je peux lui faire entièrement confiance. J'ai hâte que ce lieu aride devienne comme un jardin arrosé, même s'il fera encore très chaud. S'il vous plaît, continuez à prier ardemment que notre Père change cette terre asséchée à un pays qui est comme une source d'eau afin que la vie des Konyagi ne soit plus axée sur la mort, mais sur la vie. C'est incroyable comment ton espoir change. Tu n'as pas d'espoir lorsque tu fais face à la mort et tu n'as pas le salut en Jésus-Christ. Ça change tout. Comme cette missionnaire l'a dit, la mort n'est pas quelque chose que la plupart d'entre nous aiment considérer. On n'aime pas ça, parler de la mort. On va dire, ah, parle pas de ça. mais c'est une réalité pareille. Et vous autres, les jeunes, vous ne pensez pas à la mort. Je le sais, vous ne pensez pas à la mort. Les jeunes, on ne pense pas à la mort. Je l'ai demandé à des jeunes, tout ça, ils ne pensent jamais à la mort, à moins qu'il y ait un deuil dans la famille, c'est sûr. Mais les jeunes ne pensent pas à ça. Tu es dans la vingtaine ou dans l'adolescence, tu ne penses pas à la mort. Ce n'est pas parce que tu n'y penses pas que ce n'est pas une réalité. Mon fils Luc vient d'apprendre cette semaine. Luc a été élevé à Blainville. On restait à Blainville pendant plusieurs années. Il a passé sa jeunesse sur une rue qui s'appelle Carré-Lionel-Groux à Blainville. Une maison à côté de chez nous, il y a un jeune homme qui s'appelle Sébastien Côté. Et puis, ce gars-là, c'était l'ami de mon fils. Ils jouaient ensemble constamment quand ils étaient jeunes, tout ça, à la même école, ensemble, tout ça. Cette semaine, il a appris qu'en février dernier, il est mort. 23 ans, il est mort. Mort d'un cancer. 23 ans. C'est une réalité. Qu'on veuille pas y penser, elle est là, la mort. C'est une réalité. On a tous des gens dans nos familles, à quelque part, de près ou de loin, qui ont passé, vous avez passé l'expérience d'un deuil, soit quelqu'un dans votre famille qui est décédé. Mes enfants ont connu leur premier deuil. Je vous racontais ça l'autre jour, lorsque mon beau-frère est décédé. Mes enfants n'avaient jamais connu ça, toute la douleur du deuil. Ma fille Julie, elle ne connaissait pas ça, cette douleur de perdre quelqu'un qui était très cher, qui est proche de toi. Elle ne connaissait pas ça. Et là, ils ont vécu ces douleurs cette année pour la première fois. La mort, c'est un ennemi. C'est clair. C'est pas beau, la mort. Tu n'es jamais allé à un service funéraire et tu te dis, c'est tellement beau. C'est pas beau, la mort. C'est triste, c'est douloureux, ça nous fait souffrir. Et la Bible dit que la mort, c'est l'ennemi de l'homme. C'est pour cette raison que la Bible crie haut et fort que Jésus est venu vaincre la mort. Il fallait que Dieu règle la question de la mort. Il fallait que le Messie vienne et réussisse à vaincre la mort parce que c'est un des plus grands ennemis de l'homme. Et Jésus est venu vaincre la mort. Il est venu enlever la peur de la mort, l'épine de la mort. C'est ça, nous dit le livre aux Hébreux. L'épine, la mort, c'est comme une épine. Ça fait mal. Dans le merveilleux chapitre de la résurrection, chapitre 15, il est dit que le Messie, Jésus-Christ, a englouti la mort par sa victoire à la croix et à la résurrection. Par sa résurrection, Jésus-Christ a vaincu la mort et a englouti la mort, une fois pour toutes. Dans l'Apocalypse 21:4, nous lisons qu'un jour, lorsque le Seigneur reviendra, la mort n'existera plus. Dieu va littéralement jeter la mort, la détruire, ça n'existera plus jamais pour l'éternité. Incroyable, hein? Alors, si la mort va un jour disparaître, si elle est pour être engloutie à jamais, c'est dire que le Messie devra vaincre la mort, et c'est exactement le point de Matthieu dans le passage que nous allons voir aujourd'hui. Plusieurs passages dans l'Ancien Testament parlaient de cette idée que la mort sera engloutie, mais il fallait que le Messie fasse ça. Et justement, Matthieu va expliquer dans un passage comment Jésus-Christ est celui qui va vaincre la mort. Il est celui qui a l'autorité sur la mort. Matthieu va nous faire comprendre que Jésus est ce Messie. Il est celui qui va faire disparaître la mort. Matthieu 8 et Matthieu 9, Matthieu nous a présenté la puissance miraculeuse de Jésus-Christ sur les maladies, sur les handicapés. Il a guéri plusieurs personnes, des centaines de personnes. Tous ceux qui étaient présentés devant lui, on a vu une place au verset 16, dans 8, comment que Jésus guérissait tous ceux qui étaient malades, complètement. Alors, Matthieu a fait le point de vous démontrer que Jésus-Christ a la puissance sur la maladie. Il a, dans Matthieu 8, 23, jusqu'au chapitre 9, Matthieu nous a montré que Jésus a la puissance sur les infirmités, sur le désordre, sur les problèmes spirituels, sur le désordre moral aussi. Et maintenant, dans le passage que nous allons voir, Matthieu va nous montrer que Jésus a la puissance même jusqu'à la mort. Je vous ai déjà dit que Jésus avait fait plusieurs miracles, des centaines de miracles. D'ailleurs, même Jean a dit qu'il a fait tellement de miracles qu'on ne pourrait même pas écrire tout ce qu'il a fait. La terre ne serait pas assez grande pour contenir tout ce qu'il a fait, toutes les œuvres qu'il a fait. Alors, Matthieu choisit juste quelques-uns par le biais du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui montre quel miracle choisir dans son ministère, dans sa vie, pour démontrer, pour nous aider à croire. Et Matthieu, ce qu'il veut, dans le fond, c'est que nous puissions avoir une meilleure foi, qu'on puisse croire que Jésus est le Sauveur, il est le Sauveur, il est le Messie. Matthieu, par l'aide du Saint-Esprit, c'est Dieu qui veut ça à travers la plume de Matthieu, Dieu veut enlever toute trace de doute qui reste en nous. Ça t'arrive-tu, ça, des fois, de douter? Eh bien, Dieu veut enlever, veut balayer le doute de ta vie. Et là, on a un miracle tout à fait extraordinaire, le plus impressionnant de tous les miracles que Jésus a fait à date, la résurrection d'un mort. C'est le plus grand miracle que nous avons dans le livre de Matthieu à date, qu'il a choisi de retenir et de nous présenter. Il veut semer la confiance en nous. Dieu veut qu'on ait la foi. Et il nous donne ici la preuve ultime que Jésus est digne de foi. Et ce qu'on veut, le message qu'il nous livre ce matin et qu'il nous donne, c'est ceci. Remplace le doute par la foi. Parce que ça va nous arriver d'avoir le doute. Ça va nous arriver des fois, il y a des expériences qu'on va avoir dans notre vie où tout d'un coup, on va commencer à sombrer dans le doute. Et lorsque ça t'arrive, tu étais peut-être même là aujourd'hui, tu as des choses qui s'est passées dans ta vie là, que vraiment te donnent tellement de découragement que là, tu commences à douter. Mais Jésus veut que tu te reprennes ce matin. Jésus veut que tu balayes tout le doute de ta vie, puis tu crois, que tu as la foi. Tu peux mettre ta foi sur le Christ parce qu'il a même vaincu la mort, le plus grand ennemi de l'homme. On peut croire que le Seigneur va intervenir dans notre situation, qu'il s'en occupe, qu'il est au contrôle, et on va voir ça dans l'histoire que nous allons lire. Mais juste avant, on veut voir l'importance de croire. C'est tellement important d'avoir de la confiance. C'est tellement important d'avoir de la confiance et d'avoir de la foi que Dieu, à un moment donné, a même suscité Ésaïe qu'il aille rencontrer le roi Achaz juste de lui dire ceci. « Si tu ne crois pas, Achaz, que je vais venir te délivrer, si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. » Quand Achaz regardait autour de lui, c'était l'armée qui s'en venait, l'ennemi qui s'en venait, logiquement, il était perdu. Il n'avait pas les forces pour faire face à l'ennemi qui s'en venait. Ils étaient plus puissants que lui. Quand tu regardes autour de toi les événements, c'est certain que tu vas te sentir envahi très vite. Et Dieu suscite Ésaïe d'aller voir Achaz et de dire à Achaz, « Écoute bien, Achaz, si tu ne crois pas, si tu ne fais pas confiance, tu ne subsisteras pas. » Et c'est le danger quand on commence à regarder à côté puis on regarde les événements qui se passent. À quelque part, on peut avoir l'impression que Dieu n'est pas au contrôle. Et là, si tu commences à regarder les circonstances autour, tu quittes tes yeux du ciel, tu vas commencer à douter et tu ne subsisteras pas. Ta foi ne subsistera pas. Jésus va dire dans Jean 14:1, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en moi. » Croyez. Il y a tellement de versets dans la Bible constamment qui nous est lancé, qui nous interpelle à croire, à ne pas douter. Jean 14:11, même Jésus va dire, « Croyez-moi. Croyez-moi. Faites-moi confiance. » Constamment, Jésus dit ça. « Fais-moi confiance. » Pensons-y, il n'y a rien de plus insultant que de manquer de confiance en quelqu'un. Pense-y, là, même toi, dans ta propre vie, quand quelqu'un commence à soupçonner, quelqu'un commence à perdre la confiance en toi, il n'y a rien de plus insultant que ça. Quelqu'un qui vient te voir, « Sais-tu, je ne sais pas si j'ai vraiment confiance en toi. » Hein, ça vient te chercher. Il n'y a rien de plus insultant que ça. Léger Marketing a fait un sondage il y a quelque temps pour mesurer le baromètre des professions. Et le but est d'évaluer le degré de confiance des Québécois envers différents groupes de la société. Quels sont les métiers en qui on a le plus de confiance? Qu'est-ce que vous pensez? Pompier? Policier? Médecin? Pasteur? Au Québec, je ne sais pas, honnêtement. Les cinq professions qui inspirent la plus de confiance. Premièrement, pompier. Ce qui est Patrick, là, qu'on le félicite. Pompier. Deuxièmement, infirmière. Deuxièmement, infirmière. Troisièmement, les enseignants. Hein? Quatrièmement, les médecins. Les quatre meilleurs au Québec en qui on a le plus confiance. C'est eux autres. Des chiffres très élevés, là, en haut de 80 quelques %, là. C'est bon, hein? Jocelyne, t'es correct. Tu peux continuer à travailler si tu veux que... C'est correct. Les gens sont en train de dire, on a des bons médecins, on a des bonnes infirmières, on a des bons pompiers, des bons enseignants. Les Québécois disent ça. C'est ça que les gens disent. Alors, évidemment, ils ont fait la liste, puis ça a tombé vraiment, vraiment en bas, puis là, ils ont découvert les deux pires. Les deux professions en qui on a le moins confiance au Québec. Il me semble, vous avez l'air pas mal, ça sort naturel. Les Canadiens, oui, ça c'est vrai. Oui, ouais, les Canadiens, oui, c'est ça. Dommage, dommage, les Canadiens. Oh boy. Les deux pires, quelqu'un l'a dit, politiciens. Les vendeurs de chars. Est-ce qu'on a des vendeurs de voitures ici? Bon courage, les amis. Oh boy, là, vous avez tous les Québécois contre vous. Là, c'est vraiment pas drôle. Tu arrives pour acheter une voiture. En partant, imagine-toi le vendeur se dit, il n'a même pas confiance en moi, ce gars-là. Ça commence bien. Oh, il est pauvre vendeur. Hey, c'est important d'avoir de la confiance. C'est important d'avoir de la confiance. Denise Bombardier l'explique pourquoi. Elle explique pourquoi dans un article qu'elle a écrit dans Le Devoir. Regardez bien ce qu'elle dit à propos de la confiance. Elle dit, sans relation de confiance, la vie se transforme en un combat permanent dominé par la méfiance, le doute et ultimement le cynisme. Tu peux avoir une société, il n'y a pas de confiance. C'est vital d'avoir confiance. Tu perds confiance, mon ami, imagine-toi, tu commences à soupçonner tout le monde, tu regardes les gens, tu doutes, tu soupçonnes. Imagine! C'est tellement important la confiance qu'on n'arrête pas de faire des sondages pour essayer de mesurer la confiance des Québécois. On va mesurer la confiance des consommateurs. On va mesurer la confiance envers les politiciens. Avez-vous vu les sondages dernièrement qui sont sortis? Là? Ah, mon Dieu, tout d'un coup, Jean Charest a monté dans les sondages. Il y a plus de confiance envers Jean Charest que tous les autres en ce moment. Ah, je rentre pas là-dedans, je le sais, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Il y en a qui sont d'accord, je ne sais pas, mais en tout cas. La confiance, on essaie de mesurer la confiance des gens. Constamment. Si on était capable d'avoir un baromètre pour mesurer ta foi, je ne sais pas, tu serais où dans le baromètre de la foi? Pense-y, là. 100%, aucun doute. Aucun, tu n'as pas de doute. Tu crois que Dieu est au contrôle, Dieu va intervenir, Dieu va faire quelque chose. Tu as la foi à 100%. Tu t'inquiètes pas parce que tu sais que Dieu est au contrôle, il sait ce qu'il fait, il sait exactement ce qu'il fait. Tu arrives un pépin dans ta vie, ah, pas de problème, tu as des choses concourent au bien que ceux qui aiment Dieu. Hein? La foi à 100%. Où tu es, toi, dans le baromètre de la foi? Tu te trouves où? Bien, pense-y. Et moi, j'aimerais te lancer un défi ce matin. Si tu étais à 60, je ne sais pas moi, pense-y, si tu étais à 60, moi, j'aimerais t'encourager ce matin à quitter d'ici puis de monter encore plus. Ça va prendre un effort, ça va faire un effort. Il va falloir que tu fasses un effort cette semaine, c'est certain. Ça n'arrivera pas tout seul. Il y a un effort à faire. Et sais-tu quoi? Très simple. Et ça va être un exercice toute la semaine, il va falloir que tu fasses. Mais c'est une bonne habitude, c'est une sainte habitude, ou comme c'est Jonathan Edwards, je pense qu'il appelle ça, des disciplines spirituelles. Savez-vous c'est quoi? C'est que tu t'en vas travailler demain matin. La journée, là, tu sors d'ici. Là, nous autres, on est bénis, on est ensemble, ça va bien, yeah, puis tout ça, là, t'es rempli, puis ça, là, t'es fort, tu veux, tu sais. Tu t'en vas dans le monde, tu t'en vas travailler, puis boum, bim, bang, boum, puis toutes sortes de surprises qui arrivent, t'es poussé, le stress, puis comment ça se fait, t'as pas encore livré, puis là, tu stresses, puis etc. Et là, tranquillement, tu te demandes, pourquoi veux-tu bien me dire qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Puis, etc. Là, tu commences à t'énerver, tu t'inquiètes, puis, etc. La vie, là, c'est jour 1, lundi, mardi, mercredi. Ah, mais la réunion prière mercredi soir, tu t'en vas là, puis tu dis, ah, whew. OK, fait là, jeudi matin, tu commences, puis ça c'est pas pire, tu es en forme. Là, ça recommence jeudi dans la journée, ça descend un petit peu, vendredi. Alors, regarde bien ce que tu vas faire. Cette semaine, lorsque, je vous dis là, c'est un effort, mais il faut le faire. Cette semaine, quand il y a un doute, un petit doute, qui rentre dans ton esprit, puis tu vas les reconnaître. Petit doute. Ça rentre. Tu ne l'as pas vu passer, ça a rentré tout de suite, puis tu es en train d'entretenir une pensée où tu doutes. Tu commences à t'inquiéter. Là, tu commences à dire, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui va arriver, etc. Ah! Saute dessus. OK? Ah non, attaque-le. Saute dessus. Laisse-le pas passer. C'est l'ennemi qui vient de rentrer. Laisse pas passer un ennemi. Il va en avoir deux, puis trois, puis quatre, puis cinq tantôt, là. Vois-tu? Saute dessus. Refuse-le. Balaye-le. Tu dis non. Jésus a vaincu la mort. Il va certainement régler mon problème. Amen. Es-tu d'accord avec ça? Amen. Vas-tu faire ça cette semaine? Amen. Hey, c'est quelque chose. C'est un effort. C'est un effort, parce que peut-être ça fait des années que tu entretiens des pensées erronées, puis il n'arrête pas de te dire, ton langage intérieur qui n'arrête pas de te dire, et que t'es donc pas bon. Ouf! Dieu fera rien avec toi. Je ne suis pas capable de faire ça. Moi, je ne suis pas assez bon. Je n'irai jamais parler de Jésus à ma voisine. Ben voyons donc. Ça, c'est pour les pasteurs. Ah, ça, c'est pour des chrétiens qui ont 30 ans. Voyons donc, moi, je ne sais pas quoi dire. Ça, là, c'est des pensées erronées. C'est pas vrai. Chasse-les. On va voir ce matin deux événements qui se passent alors que Jésus est en train d'avoir son ministère. Deux événements. Jésus va faire la rencontre de deux personnes. Jaïrus et une femme qui perd son sang depuis 12 ans. On va voir une personne qui vient voir Jésus plein de foi, Jaïrus, mais qui la perd alors qu'il est près de Jésus. On va voir une autre personne qui avait perdu la foi, mais va la gagner alors qu'elle s'approche de Jésus. Jésus n'a pas fini avec le premier. Jaïrus, qui a perdu sa foi et est découragé, il est même craintif, dit Jésus, va retrouver la foi tout à l'heure. Moi, je me retrouve là quelque part des fois, parce que ça m'arrive. Alors, tournez avec moi dans Matthieu. Ce n'est pas un long texte. Matthieu 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles. Vous êtes là avec moi, Matthieu 9, 18? Oui, je vais entendre un gros amen si vous êtes là avec moi. Amen. Si ce n'est pas assez fort, c'est parce que vous n'êtes pas encore là. Êtes-vous là? Ah oui, là, OK, vous avez trouvé le passage, excellent. Matthieu, verset 18, 9, 18. « Tandis qu'il leur adressait ses paroles, Jésus est en train de parler à qui? N'oublions pas, il est dans un souper avec Matthieu, vient de se convertir, etc. Il est là. « Tandis qu'il leur adressait ses paroles aux disciples de Jean-Baptiste et tout ça. Voici un chef arrive. » On l'apprend par Marc, un autre livre, qu'il est le chef des synagogues. « Voici un chef religieux. » qui vient voir Jésus, il se prosterne devant lui, il dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se lève, le suit avec ses disciples. Arrêtez juste là. Là, il faut savoir que dans Matthieu abrège, Matthieu raccourcit toute l'histoire, là, tu sais, l'histoire est beaucoup plus longue, fait que Matthieu va juste condenser ça, parce que Matthieu veut démontrer l'autorité de Jésus-Christ, donc il n'y a pas besoin de raconter tous les détails, t'sais. Des fois, je vais décrire un accident. Mettons, je vais dire, il y a eu un accident sur Renan Terrien. Mais si tu demandes à la femme de compter l'histoire de Renan Terrien, c'est pas ça. Ça va être non, la voiture était bleue. Puis la voiture est arrivée, puis elle était bleue, etc. Puis elle va donner tous les détails au complet. Mon ami, tu finis, mais c'est comme si tu étais là. Moi, j'abrège. Fait que Matthieu fait ça parce que son but n'est pas de donner les détails, parce qu'il est en train de démontrer l'autorité de Jésus-Christ sur la mort. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est qu'il abrège. Il donne tout de suite la conclusion de l'histoire, dans le fond, que sa fille est morte. Mais au début, quand Jaïrus est allé voir Jésus, sa fille, en réalité, elle est malade. Et elle est mourante. D'accord? Alors, il vient voir Jésus, demande, viens voir ma fille est mourante, elle est sur le bord de mourir. Il se met à genoux, il plaide. Jésus vient, ça presse. Alors là, ce que j'aime, ce qui est très intéressant, c'est ce que j'aime de Jairus, c'est que Jairus a la foi. Est-ce que vous croirez? Est-ce que vous voyez ça, que Jairus a la foi? Elle est mourante, viens, touche-la, elle va être correcte. Impose-lui les mains, elle va être correcte, tu vas la guérir. Ça, c'est toute une foi. Mais le chapitre avant, au chapitre 8, il y avait un centenier, lui, qui n'est même pas un juif, qui n'est même pas religieux, qui a dit à Jésus, s'en va voir Jésus, puis lui dit, écoute, déplace-toi même pas, donne un ordre, puis je sais qu'en donnant un ordre, mon serviteur lui va guérir. Jésus dit, wow! Il dit, j'ai jamais vu autant de foi en Israël. Même chez les gens religieux en Israël, j'ai jamais vu autant de foi que ça. Le gars n'était même pas religieux, c'était un centenier, c'était un romain. Donne un ordre, elle va guérir comme ça. Il va guérir comme ça, mon serviteur. Jairus, lui, sa foi, est-ce qu'on peut dire, elle n'est pas aussi grande. Et non, parce qu'il dit, viens, il faut vraiment que tu te déplaces, puis il faut que tu la touches. Hein? Est-ce que Jésus a besoin de se déplacer? Ben non, il n'aurait pu dire, elle est déjà guérie. Ta fille est guérie. Hein? Ben oui, il n'était pas obligé de le faire. Mais Jésus l'a fait. C'est drôle, hein? Il va se lever, puis il va répondre à la foi de Jairus. Jairus lui demande, veux-tu venir chez nous, toucher ma fille? Jésus dit, c'est correct. C'est incroyable de voir l'accessibilité de notre Seigneur. Il va agir selon ta foi. Peut-être une petite foi ce matin. Mais tu n'as pas besoin d'avoir une grosse foi, mais ça prend de la foi. Ça prend de la foi. On le voit dans le texte, les deux. Ça prend de la foi. Et là, Jésus se lève, puis s'en va. Là, d'un coup, en plein milieu, imagine-toi donc, il y a une fille mourante, la fille de 12 ans. Pas jeune, 12 ans, dans ce temps-là, vous savez que les filles se mariaient à 13 ans. Dans le fond, il y avait même un rituel chez les Juifs. Il n'y a pas d'adolescence dans ce temps-là. Hein? Et tu devenais une femme tout de suite. Il y avait un rituel, le bar mitzvah, où les Juifs célébraient ce rite de passage. C'était un rite de passage où tu devenais enfant et tu devenais adulte. Mais toutes les responsabilités venaient avec, par exemple. C'était une femme ou un homme. Et ce que ça veut dire, c'est que ben là, tu es maintenant responsable de tes gestes. C'est plus papa. Moment. C'est toi. Fait que même aux yeux de la loi juive, ça avait toutes des implications, etc. Il devenait responsable.
Elle avait
12 ans. Et là, tout d'un coup, Jairus a bien hâte que Jésus arrive chez eux. Hein. Ta fille est mourante. Fille de 12 ans, quand même, mourante. Sur son lit, rien à faire. Elle est mourante. Et Jésus dit, se lève, il commence à se diriger vers aller chez eux. Puis là, d'un coup, Jésus se fait interrompre par une femme qui a un écoulement de sang. Il se fait vraiment interrompre. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ça fait 12 ans qu'elle est malade. Elle s'approche par derrière, touche le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille. » C'est tellement beau, ça. Hein? Voyez-vous les paroles de consolation ici, « Prends courage, ma fille. » Prends courage. C'est ça que Dieu nous dit. Prends courage. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'instant même. Encore dans Marc, on a plus de détails, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une foule, ça presse Jésus, tout le monde le pousse, le bouscule. Cette femme a beaucoup de courage, elle se faufile. Vous savez que dans ce temps-là, rituellement, elle était impure depuis 12 ans. Lorsqu'une femme avait un écoulement de sang, tu devenais impure sur le sens rituel. OK? Malheureusement, et ça durait quelques jours, là. Malheureusement, cette femme était dans un continuel perte de sang. Et les Juifs sont allés beaucoup plus loin dans toutes leurs lois et tout ça. Laissez-moi vous lire juste quelques petits détails ici, importants, de la loi juive. Ils sont allés très, très, très loin, eux autres. Lévitique 15 dit ceci. Ça, c'était ce que Dieu avait dit. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux. Donc, il y a une impureté qui est rituelle qui est là. Il y avait toute une procédure en place pour les femmes qui avaient des écoulements. D'ailleurs, c'était tellement un problème qu'ils ont même écrit un traité complet dans la littérature juive, dans le Talmud, juste là-dessus. Paquet de rituels là-dessus, de lois, puis tout ça. Puis vous savez que les rabbins, dans ce temps-là, c'était des médecins. C'est eux autres qui concoctaient toutes sortes de portions, de potions, puis des prescriptions. Ils essayaient toutes sortes d'affaires. Puis ils ont essayé un paquet de choses pour essayer d'aider ces femmes-là qui souffraient. Malheureusement, avec le temps, rendu à l'époque de Jésus-Christ, les femmes, les hommes, les rabbins, avaient poussé plus loin la question de cette impureté-là, puis a commencé à juger le cœur de ces femmes-là. Alors, les gens ont commencé à dire, bien, si elle est constamment dans un flux, qu'elle perd cet écoulement-là, ça veut dire peut-être qu'elle a des mauvaises pensées, puis elle est pécheresse. Donc, on a commencé, malheureusement, à les juger, les mépriser, les tasser. D'ailleurs, même un terme que l'on voit dans la littérature juive, c'est « polluer ». Imagine-toi donc comment les femmes, ces femmes-là qui souffraient ces choses-là, pouvaient se sentir. Puis pendant 12 ans, cette femme-là n'a pas le droit de rentrer en contact avec aucun être humain. Pas le droit de toucher, pensant ça, tu vas rendre l'autre impur, cérémonialement parlant. Et moi, je veux me mettre dans les souliers maintenant de Jairus, qui attend, qui est là, puis sa fille est en train de mourir. Et là, c'est ça que Jésus donne du temps à cette femme-là, ça fait 12 ans qu'elle est malade, il me semble, elle ne peut pas attendre 2 heures de plus. Est-ce que ça te frustre des fois que tu as l'impression que Jésus attend? Comment ça que le Seigneur attend avant de m'exaucer? Je ne comprends pas. Il me semble que ça presse. Et ici, Jairus est là, puis il attend. Là. Puis justement, en attendant, cette femme, beaucoup de fois, se faufile. Elle avait essayé toutes sortes de choses. On voit même dans Marc, elle avait dépensé tout son argent au complet à acheter des prescriptions, puis essayer de... Ah, il y avait toutes sortes d'affaires. À un moment donné, on pensait même que... Il y a une des prescriptions, c'est que tu étais debout en avant. Là. Tu mettais dans la croisée des chemins, là, comme ça. Là. Puis on te mettait debout juste là, là, la femme qui avait son écoulement de sang. Là. Elle tenait un verre de vin. Puis tu devais la surprendre, venir en courant en arrière, puis crier « Que ton flux cesse! » Juste la peur. Tu sais, comme le hockey. Là, quand tu as le hockey, quelqu'un dit « On va faire peur, puis ça va arrêter. » Bien, dans ce temps-là, c'est peut-être là que ça a commencé. On pensait peut-être te faire peur, ça va arrêter. Mais ça ne marchait pas, évidemment. Ils ont essayé toutes sortes d'affaires. Il y avait des colliers spéciaux. Il y avait toutes sortes de potions mélangées dans du vin. Il n'y a rien qui marchait. Puis d'ailleurs, Marc l'a dit qu'elle a perdu tout son argent à faire ça. Elle était découragée. Elle avait perdu la foi. C'est une femme juive. Pendant 12 ans, elle a prié pour ça, c'est certain. C'est une femme juive, une femme qui allait à la synagogue, tout ça. Elle a tout perdu ça, tout perdu. Elle a perdu sa foi. Mais là, elle voit Jésus arriver, puis elle retrouve l'espoir. Elle s'approche de Jésus. Elle se faufile, elle tasse le monde. Elle aurait pu être bien méprisée, là. Elle n'a pas le droit de toucher à personne. Elle se faufile, elle tasse la foule, puis elle va accrocher. Elle s'est juste dit, regardez bien sa foi. Elle se fait juste dire, si je peux juste toucher son vêtement, je vais être correct. Je n'ai même pas besoin de demander à Jésus de me guérir. Juste le toucher, je vais guérir. Ce qui est le contraire de Jairus. Moi, je vais toucher, je vais être correct. Même pas besoin de parler, même pas besoin de demander. Ah! C'est intéressant de voir la foi de cette femme-là. Et ça marche. Jésus sent le pouvoir sortir de son corps, il la guérit. Et là, pendant qu'il vient de la guérir, cette femme-là guérit, là, il y a des hommes qui viennent voir Jairus, puis ils disent, écoute, n'importe plus le maître, Jésus, laisse-le tranquille, ça ne donne rien, ta fille est morte. Évidemment, c'est le cœur d'un père qui est là, Jairus, puis là, il commence c'est le désespoir. Là. Et là, il commence à désespérer. Et là, Jésus se retourne de bord, puis il dit, écoute bien, Jairus, ne crains pas. Crains pas, mais crois. Vois-tu, il va y arriver des expériences dans nos vies là, qu'on commence à craindre. Mais qu'est-ce que Jésus veut à ce moment-là? Au contraire, ne crains pas, mais crois. Pourquoi Dieu fait attendre Jairus comme ça? Pourquoi faire attendre? Des fois, Dieu nous fait attendre et on se demande toujours pourquoi. Laissez-moi vous lire un passage très vite et tournez avec moi dans Exode, deuxième livre de la Bible. Exode 13, qui dit ceci, 13, 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point sur le chemin des pays de Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Écoutez bien ceci, voici ce qui se passe ici. Tu as le point A et le point B, d'accord? Point A, ils sont à Goshen, il faut qu'ils se rendent à Canaan, point B. Je ne sais pas si c'est ça comme moi, mais quand j'ai étudié la géométrie, on a appris une chose, c'est que le chemin le plus court entre deux points, c'est quoi? Une ligne droite. Alors, quand tu sors la carte géographique pour regarder Goshen puis Canaan, ça donne qu'il y a une route commerciale directement un à l'autre. Et là, pour une raison qu'on ignore, Dieu décide, hey, ça, c'est tellement court. Non, il ne faut pas qu'ils aillent directement là. Bien, dans le fond, c'est pas une raison qu'on ignore, on le sait parce que la parole nous dit. Dieu fait faire un détour dans le désert, un chemin beaucoup plus difficile, pour tranquillement se rendre à Canaan. Pourquoi? Parce que si Dieu les envoyait directement à Canaan, qu'est-ce qui serait arrivé? Découragé, la guerre, des pertes, la souffrance, etc. Donc, regardez bien, un cours de géométrie du ciel. C'est pas pareil là-bas. Au ciel, un cours de géométrie, voici ce que Dieu veut que tu saches. Le point le plus court entre point B et point B au ciel, c'est un zigzag. D'accord? Amen. Parfois, Dieu te fait faire des zigzags et va faire un détour et tu ne comprends pas pourquoi tu es dans le désert. Mais sache une chose, ne crains pas, crois. Parce qu'au ciel, Dieu est au contrôle. Si Jésus-Christ a été capable de ressusciter la fille de Jaïrus, et c'est exactement ce qui va se passer, Jésus va se rendre chez Jaïrus, fait sortir tout le monde, il prend la main de sa fille, la fille de Jaïrus, puis il dit « Lève-toi ». Et là, elle sort de la mort. D'ailleurs, Jésus va même l'appeler, il va même dire « Elle dort ». Elle dort. Jésus a changé notre perspective de la mort. Ce n'est plus une fin, c'est un début, c'est un commencement. D'ailleurs, l'Église primitive a commencé à appeler ceux qui mouraient « ils dorment ». Ça change. Vois-tu donc, crois. Crois. Chasse le doute cette semaine. D'accord? Crois parce que Jésus a même l'autorité sur la mort. Puis il va le faire, il est au contrôle, même s'il est en train de te faire un zigzag. Amen. Prions, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que parfois tu nous fais faire des zigzags et on trouve ça dur faire ces zigzags. On aurait aimé ça tellement vite et tout de suite être exaucé. Puis des fois, on te demande des choses et pour nous, c'est tellement important. C'est des choses qui sont importantes, mais toi, tu sais exactement ce que tu fais. Tu es au contrôle, Seigneur. Aide-nous à croire, à ne pas douter, même lorsque tu nous fais passer par des zigzags, sachant que tu es au contrôle, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.